d'actes, bien sûr, qui ont des poids, des différences, et qui nous mettent en face de nouvelles conceptions tout à fait fascinantes et qui surtout invitent tous deux à la pluridisciplinarité. C'est vrai que le temps est une notion telle qu'il faut. Quand on vit dans le temps, comment peut-on le comprendre? Et il faut peut-être essayer de s'y mettre à plusieurs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut entamer la discussion.
Moi, je vais le faire. D'abord, merci. Puis, je trouve que tu as improvisé en français de façon brillante. Je n'ai pas entendu de barbarisme, donc je suis toujours impressionné par ta capacité à parler en plusieurs langues. Voilà. Et ensuite, deux choses. Il y a deux parties dans ton exposé. D'abord, merci pour ce magnifique texte qui fait la chasse à l'astrologie et au bestiaire dans le ciel. C'est un texte épatant. Enfin, je trouve absolument splendide au point de vue intellectuel. Et je me demande d'ailleurs comment il a concilié cela, comment faisait l'Antiquité tardive pour concilier la séparation aristotélicienne entre céleste et sublunaire. Parce que, s'il y a des animaux dans le ciel, on n'est plus dans le céleste, on est dans le sublunaire, etc. Voilà. Mais bon, c'est... Alors, ensuite, pour cette histoire de rythme, il faut quand même reconnaître que... ça fait bien deux siècles ou trois siècles que les philologues discutent sur les testimoniats. On a participé à pas mal de travaux. Alors, je voudrais juste te dire deux choses. Un, pour ce qui est de Dag Norbert, que j'aime beaucoup, tout n'est pas bon à prendre. Chez lui, je suis d'accord. On ne va pas éterniser, mais il y a des domaines où, par exemple, il a apporté son opinion, je dirais, avec une rigueur de philologique un peu de style Ikea, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire tout doit rentrer dans un modèle préfabriqué et assez souvent, en fait, ça ne marche pas. Bon, mais par contre, il a fait quelques trouvailles importantes, je crois. Tout à fait. Bon, donc, comme toujours, il y a un leg à trier. Alors, dernière chose pour les textes, là, tu vois, je crois, les grands marins de l'Antiquité tardive, à mon avis, assez souvent, ne comprennent plus ce que veut dire le rythme de l'Antiquité classique. Je te donne, j'ai mis longtemps, ce qui fait que, quand on cite des témoignages, parce que, bien sûr, il y a le Moyen-Âge long, il y a l'Antiquité longue, tout ce que tu veux, mais en même temps, les siècles passent, et les situations changent, et en particulier, ce qui change toujours plus vite qu'on voudrait, ce sont les langues. Voilà, c'est les langues échappent à tout le monde encore plus que le temps, ou en même temps peut-être. Et alors, donc, tu vois, la citation de Marcellus Capella, que je connaissais, qui est tout à fait intéressante, quand il dit Pericode aut efferenda vox fuerit aut premenda, donc c'est une citation qui prouve qu'il ne comprend plus ce que c'est que l'ictus. Voilà, c'est-à-dire, voilà, parce que l'ictus, dans le verbe du latin, classique, l'ancien, le vieux vers, est un vers, il n'y a pas d'accent assez fort pour marquer un rythme. Donc, dans ce cas-là, le rythme, tu as deux solutions. Ou il est marqué intérieurement dans les langues d'accent fort, ou extérieurement dans les langues d'accent faible. C'est générique. Le latin classique est une langue d'accent faible, et Quintilien le dit très bien. Il dit que le rythme avance ad crepitum digitorum. Il n'y a aucun doute, ça veut dire que c'est... Et tu le retrouves, d'ailleurs, je ne le savais pas, chez Odon. Je ne sais pas comment Odon faisait. Alors, tu vois, donc l'ictus n'est pas lié à l'accent de mot, il est donné extérieurement. Et quand, en latin tardif, l'accent est devenu fort, là, ça met la pagaille, il faut le dire, auprès des grands mériens. Et à mon avis, ce que dit Marcellus Capella prouve qu'il ne comprend plus que le rythme du vers classique. Ça montre bien pour nous aussi que la mutation a eu lieu, qu'ils se sont rendus compte et qu'ils ne savent pas trop bien comment faire. Voilà, mais je ne veux pas transformer un séminaire de linguistique. Mais je suis d'accord. Non, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Hein. Simplement, on ne peut pas se fier aux auteurs de l'Antiquité tardive pour reconstituer ce qu'était le rythme du vers de l'Antiquité classique. Voilà ce que je veux dire. Surtout qu'en plus, il y a une fluctuation, parce que le Saturnien, il y a des bons articles, on sait maintenant comment rythme le Saturnien, comment il est fait, c'est un vers syllabique, il y a des bons articles de Dupras, qui sont parus, c'est un vers syllabique où le rythme est donné par l'accent, Et puis, après, apparaît un nouveau vers, le vers moderne à l'époque, qui est un vers où l'accent est doux, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, donc, tu as une fluctuation vers syllabique, vers non syllabique et retour au vers syllabique. Et ça, c'est le 4e, 5e, 6e siècle. Voilà. Et je crois qu'il y a des moments où les grands mériens ne comprennent plus la notion d'ictus, et c'est ce que dit, on le voit là. Hein, et alors, d'autre part, dernière chose que je voulais dire, il faut vraiment faire attention à ne pas appliquer les principes de description musicale à l'interprétation des vers classiques. Parce que quand on chante, le chant peut absolument déplacer les accents comme il veut. Qui écoute Verlaine, mise en musique par Debussy, tu ne peux pas reconstituer la prononciation du français de 1900 à travers la musique de Debussy. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Mais merci, hein, c'est tout ça tout à fait passionnant. Très compliqué, donc c'est passionnant.
Je suis tout à fait d'accord.
Ah.
Mais répète, les mots sont répétés, et il y a un moment où, en fait, c'est comme sur Arcis et Thésis, ils vont les interpréter complètement à l'envers. Parce que les mots, ils ne savent plus ce que ça veut dire, et ils mettent autre chose dessus. Donc on peut toujours prendre les citations, si on ne sait pas exactement, on ne peut pas savoir ce qu'elles veulent dire, tant qu'il n'y a pas autre chose, et nous en vivons encore. Parce que pour nous, élever la voix, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ce sont des termes qui vivent depuis l'Antiquité, et qui en fait ne veulent pas dire ce qu'ils ont l'air de dire. Pour nous, élever la voix, c'est crier, tandis qu'à l'origine, ça vient, vous vous rendez compte, ça vient d'il y a 20 siècles, le temps où l'accent élevait la voix, et on n'est même pas sûr que ce soit comme ça dans l'accent latin. Un petit peu.
Oui, non, mais moi je crois. Là,
c'est vrai, on va pas discuter en même temps. Parce que là, on n'a pas fini.
Non, en tout cas, que l'ictus n'était pas marqué à l'intérieur du vers par la voix, en latin classique, c'est certain. Et là, ça prouve qu'ils ne comprennent plus. Mais parce qu'il y a une mutation, c'est ce que...
Alors, généralement, ils se recopient les uns les autres, parce qu'on ne laisse rien perdre. On recopie. Et ils peuvent recopier une définition, deux définitions, trois définitions, et on ne sait laquelle leur dit quelque chose que lorsque, tout à coup, sur une définition, ils démarrent et ils continuent. Ils continuent, ils rajoutent quelque chose, et là, on sait que ça leur a dit un petit quelque chose. Mais tout ce qu'ils recopient, ils peuvent le recopier 20 fois. On ne laisse rien perdre.
Mais c'est le texte qui a cité, c'est vraiment très amusant.
Que le grand moyen de la table d'antiquité répète des choses de la manière précédente sans le comprendre, sans toujours le comprendre. Mais de toute façon, on peut discuter si l'élévation de la voix c'est d'intensité ou de. Ou mélodique, mais de toute façon il y a quelque chose, c'est cette là, il y a une marque. Norbert dit qu'il n'y a pas de marque jusqu'à la fin du vers, qu'on lit le vers comme la prose avec une cadence, ou qu'ils sont composés sur le schéma des vers métriques. Personne ne dit ça. Personne dans toute l'histoire du Moyen-Âge et de la table antiquité dit que les vers rythmiques ont été faits sur le sillage de vers métriques. Donc c'est une projection scolastique, je crois, de Norberg, qui, post hoc, ergo propter hoc.
Je trouve aussi qu'il veut absolument retrouver des scénaires et tout ça. Je me demande comment il fait. Et d'autre part, pour trouver des coïncidences, il met des accents secondaires. Et moi, ça me gêne beaucoup parce qu'il n'y a pas d'accent secondaire.
Ce ne sont pas des accents de mots.
Des accents de mots, il n'y en a qu'un.
Et
aucune langue romane n'a plusieurs accents. En italien, s'il y a deux accents, c'est deux mots. Voilà. Donc, et ça, il le fait allègrement. C'est le montage IKEA, c'est ce que je te dis.
Voilà. Ça, je ne suis pas si sûr. Ce n'est pas l'endroit de discuter de ça.
Il
faudrait qu'on revienne au temps.
Voilà, c'est fini, je
m'arrête.
Madame, moi, c'est
mais revenir donc à ce qui est le point commun de ces deux communications, tellement riche, le sens et la perception du temps. Perception du temps, donc on va la laisser à travers le temps des vers, sinon on ne s'en sort pas. Et revenir peut-être, moi, j'aimerais demander à Jean-Claude Schmitt, voilà, c'est tellement difficile, comment se fait ce passage d'un rythme que nous avons tous tendance à percevoir comme dans le temps à un rythme visuel, hein, ce qui est en fait la grande différence sur laquelle tu as commencé, les choses que l'on voit, nous parlons du rythme des colonnades, nous parlons des choses qu'on n'aurait jamais dit au Moyen-Âge, hein, puisqu'il semble bien malgré tout que cette façon de... cette mesure qui apparaît dans le mot rythme a toujours été comptée comme quelque chose d'oral ou de mental si l'on veut, mais donc quelque chose qui se déroule dans le temps. As-tu des idées?
Je ne vais pas avoir une réponse, mais c'est une pratique parce que là encore c'est fort complexe et très, très général. Ce qui est très frappant, c'est qu'encore à la fin du XVIIIe siècle, quand on parle de rythme, on parle de musique, on parle de poésie. Il y a le grand débat entre Rousseau et Rameau sur la musique, notamment dans l'encyclopédie. Les articles de l'encyclopédie qui concernent ces problèmes ne connaissent que ça, le rythme comme musique. Et puis, en même temps, c'est le moment où en particulier à cause des progrès, enfin du point de vue de l'expression scientifique intellectuelle, le progrès de la biologie, les questions de métamorphose des plantes, etc. On a Goethe est un très bon exemple, par exemple, mais il y a vraiment des spécialistes qui commencent à utiliser le mot dans toute une gamme de domaines différents. Mais ça n'épuise pas encore, évidemment, la richesse des emplois modernes. Alors, au-delà, je pense que c'est vraiment les transformations même de la société, la question de la machine à vapeur, la machine des transports, etc., qui font que cette notion se généralise et devient employée dans des domaines très différents, ce qui, naturellement, n'empêche pas de continuer à parler de poésie, de rythme de la musique, mais on l'emploie dans des domaines très différents, y compris, en effet, tout ce qui n'est pas du temps, ou qui devient du temps quand on prend le temps de regarder une colonnade ou une image abstraite, pas Paul Klee, mais il y en a beaucoup d'autres, et qui réfléchissent justement à ça. Delaunay, par exemple, les textes de Delaunay qui sont tout à fait passionnants.
Valéry, c'est Valéry, c'est pour sur le rythme de colonne.
Oui, absolument.
C'est Valéry.
Bon, alors bien sûr, on pourrait dire qu'on reste dans le domaine de la poésie, mais bon. C'est un mouvement général, et puis, du point de vue proprement spéculatif et intellectuel, les sciences sociales et la sociologie, aussi bien en France qu'en Allemagne, posent la question des rythmes au départ. Et du point de vue du temps, justement, Durkheim et Mauss disent bien que les conceptions que les sociétés ont du temps sont dépendantes de leurs rythmes sociaux. On est d'abord, comme le dit Mauss, un animal rythmique, c'est ce que dit Mauss, l'homme est un animal rythmique, et c'est en fonction des rythmes propres à chaque société, les rythmes agraires, liés au climat, etc., parce qu'il y a, chez Mauss, il y a une étude importante sur les Esquimaux, par exemple. Vous n'y êtes jamais allé, naturellement, mais bon, chaque société développe des conceptions du temps, qui sont différentes. Mais il distingue bien le rythme et le temps.
Ah oui. Et tu ne penses pas qu'au fond, une religion, c'est d'abord un certain nombre de rythmes qui ont été intégrés. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'être croyant? C'est dans une communauté de gens qui pensent religieusement au même rythme. Enfin, bon,
tout à fait, le rythme.
De ce côté-là, l'Église catholique a très bien fonctionné pour rythmer la vie quotidienne et la vie annuelle, etc. Ça se dissout maintenant en France, mais quand j'étais gamin, le rythme de la journée, le rythme de la semaine, c'était le rythme religieux. Hein, ça. Et je n'étais pas moine. Mais j'ai l'impression parfois que tu as mis croyant à ces rythmes, et c'est vrai qu'être croyant, c'est avoir un certain rythme intérieur d'une certaine parole qui vient à point d'entrée.
Oui, c'est pourquoi j'ai distingué ces deux aspects. On ne peut pas limiter le problème au faire croire, qui est très important, mais il y a plus que ça.
Non,
il y a l'effet même de la croyance qui est rythmé.
Il voilà. y a l'adéquation affective qui joue.
Je voulais poser justement une question à Jean-Claude. Sur ce rythme religieux et social, l'un étant intégré dans l'autre, Est-ce que dans ton travail, tu vois des complémentarités ou des tensions, ça dépend des lieux où on examine ça, entre justement dans l'histoire un rythme circulaire cyclique, qu'on voit par exemple dans le calendrier liturgique, dans les statuts du Collège du Mans, puisque ça revient toute l'année, dans les ordinaires, enfin dans beaucoup de documents, et les rythmes des âges du monde, par exemple, qui sont une scansion du temps vers la parousie encore.
Là,
c'est deux façons de rythmer l'histoire.
Et... Oui, c'est ce que j'ai indiqué. Il y a des modalités différentes. Et ce sont en tout cas les deux grandes catégories, enfin, me semble-t-il, hein, mais qui se mêlent. C'est pourquoi j'ai montré l'image de Bamberg, parce qu'on voit très bien comment ces modèles cycliques peuvent concerner un phénomène comme la procession, une procession céleste, hein, mais qui marche. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette image, donc des choses se mêlent. Mais disons qu'en gros, il y a ça. Et la tapisserie de Bayeux, bien, on voit cette scansion des traits dans les marges, hein, qui est tout à fait. Qui répond aussi à la langue, puisqu'il y a les légendes, hein, et au mouvement même des chevaux, de la bataille, etc. Donc là, on est dans l'ordre de la scansion. C'est pas, ça n'a rien à voir. Alors, le modèle de l'histoire, c'est naturellement Augustin. L'histoire chrétienne, c'est Augustin qui définit cette vaste scansion, la périodisation des âges du monde, et on est dans le dernier âge. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a ces deux grands modèles, mais après, il faut voir le détail, selon les cas, et ce que j'appelle les micro-rythmes.
Oui, avec la fonction anthropologique de l'histoire brève qui s'inscrit dans l'histoire éternelle.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Et pas une seule histoire.
C'est la figure qui se reproduit, en fait. Voilà.
Il y a les chroniques, il y a la géographie, il y a les biographies, tout ça, c'est des emboîtements. Nicole, reste la présidente.
Tu évoquais tout à l'heure dans les objectifs généraux de tes recherches l'importance qu'il pourrait y avoir à confronter entre différentes aires culturelles également. Je veux dire, ne pas se concentrer sur le monde auquel on a fait référence, notamment le latin grec. Est-ce qu'on n'a jamais tenté l'enquête qui viserait à voir comment on nomme ces réalités ailleurs, dans d'autres aires culturelles, et du coup, qu'est-ce que ça a comme impact, je dirais, sur une représentation globale
C'est fort compliqué parce que ce qu'on peut dire, c'est que toutes les cultures se fondent sur l'astronomie, leur astronomie. Finalement, le grand domaine scientifique dans toutes les cultures traditionnelles, c'est le compute. C'est ce qu'on appelle le compute au Moyen-Âge. C'est la science du temps à travers l'astronomie. Mais ce qu'on fait des étoiles, elles sont à peu près les mêmes pour tout le monde. En tout cas, selon les hémisphères. Mais ce qu'on fait des étoiles, ce qui est frappant et absolument stupéfiant, quoi, c'est la. Ensuite, la différence de ces systèmes. Si on prend les Mayas, les Chinois, cette année, dans le cadre du campus Condorcet, on a organisé toute une série de conférences très passionnantes sur la mesure du temps, justement, hein, mais de synthèse pour faire ça, pour prendre tout ça ensemble. C'est toujours de l'ordre de la juxtaposition des systèmes. Par exemple, le cours du Soleil et la Lune, bon, le fait qu'il y ait 19 ans pour la Lune, 28 ans pour le Soleil, donc ça fait 532 ans, ce qu'on appelle la grande année, qui est propre à ce système médiéval. Dans d'autres cultures, on ne va pas du tout voir 532 ans, mais beaucoup plus que ça. Pourquoi ?
Et pour s'en tenir à une situation qui a été en contact étroit avec celle que vous évoquez, dans le monde marqué par la religion musulmane, est-ce qu'il y aurait des points de convergence, de même qu'il peut y en avoir aussi dans les productions de textes poétiques, etc. Est-ce que là, il y aurait une ouverture au moins ?
C'est probable, mais je ne suis pas capable de répondre.
Je pose la question.
Il y en a des astronomes, hein, grecs.
Oui, bien sûr, il y a de l'influence. C'est bien, mais.
On va poser une dernière question.
Oui, mais non, c'est juste un petit commentaire par rapport à ce que vous disiez là à l'instant. C'est que c'est vrai que c'est une juxtaposition quand on regarde différentes cultures, mais si on vise la question du temps et du mouvement, ça peut simplifier les choses. Je mentionne quelque chose de complètement extérieur, mais ça serait utile de voir un musicologue comme Zimar Aron, qui a remarqué que les polyrythmes africains avaient exactement la même notion de temps, c'est-à-dire de tactus, qu'à l'époque médiévale. Et donc, si on regarde le temps, c'est beaucoup plus facile de s'aligner sur ça. Et par rapport aux musulmans, on pourrait regarder cette notion de temps, de la notion scolastique de matière, qui est sur trois niveaux, où ils n'ont eu aucun problème à étudier les philosophes musulmans. Et c'est vrai que dans la tradition aristotélienne, matière-là, c'est le mouvement. Et donc, c'est ça la voie à regarder. Et petit commentaire, donc par rapport à cette notion de tactus, elle est complètement incompatible avec la notion de bon Dieu, de temps fort et temps faible. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de lire l'approche de Darom, parce qu'il explique cela de façon extraordinaire et son travail est merveilleux. 20 ans, ça lui a pris 20 ans pour comprendre quelque chose que tout le monde a dit était incompréhensible.
C'est bien. Peut-être faire une
pause. Ah oui, carrément. Récréation.